Mesdames, messieurs, bonjour, bon lundi et merci d'être là. C'est Jacques pour le magazine du Tarn sur CFM Radio. Aujourd'hui, dans ce magazine, nous allons feuilleter le dernier numéro du journal Casse-Pierre du coin, le numéro 28 du Saxifrage, est à retrouver dans différents points de distribution et sur CFM Radio. Nous allons résumer la teneur de quelques-uns des articles qui sont traités. Dans celui-ci, on en parle aujourd'hui avec J. Cabot. Bonjour.
Bonjour.
Co-rédacteur et l'une des plumes hein, de Saxifrage. Alors, J. Cabot, dans ce numéro 28, vous consacrez un gros dossier à la situation épineuse que vit et subit le village de Verfeil-sur-Seille dans le Tarn-et-Garonne, où vous serez d'ailleurs le dimanche 29 pour la fête des morts dont on reparlera. Mais déjà, explique-nous dans quel contexte vous a poussé à vous intéresser à ce village de Verfeil-sur-Seille.
Alors, on veut dire que les raisons lointaines, c'est que ça fait partie des ce qu'on observe à Verfeil depuis plusieurs années. Ça fait partie des ce qu'on appelle entre guillemets les initiatives positives, c'est-à-dire que parfois on peut nous renvoyer que on met souvent le doigt là où ça fait mal, on critique, on est sur une sorte de vigilance un peu caustique sur des dossiers du territoire qui sont plutôt des lieux de contestation. Je vais prendre l'exemple du circuit qui nous avait valu un procès pour diffamation. Et là, à Verfeil, ce qu'on observe depuis plusieurs années, c'est qu'il y a une dynamique associative, villageoise, artistique, militante, qui est plutôt digne de d'enthousiasme et qui fait partie des choses à soutenir et à valoriser, et pas des éléments de contestation, mais plutôt des choses qui font plaisir à voir. Mmh. Donc ça fait depuis longtemps qu'on pouvait se dire que Verfeil, il y avait des choses à observer, à raconter, à célébrer.
À souligner.
Mmh. Et plus récemment, c'est-à-dire ces derniers mois, on va dire, ou cette dernière année, c'est par ailleurs un lieu, un espace à défendre, parce que un peu comme le circuit d'Albi, c'est mettre le doigt où ça fait mal en fait, parce que cette dynamique justement qui est plutôt réjouissante, elle fait l'objet de diverses tracasseries, divers harcèlements. Pour résumer, il y a une espèce de d'ambiance un peu délétère qui émane de certaines institutions, de certaines collectivités qui ont plutôt tendance à blacklister des associations, des compagnies de spectacles.
Et ça passe par quoi, par exemple?
Alors c'est beaucoup des choses qui sont officieuses, c'est de l'ordre de propos qui sont rapportés par exemple des techniciens, des salariés, des collectivités qui font état de d'instructions orales qui leur sont données
et pour ne pas attribuer de subventions, pour ne pas attribuer d'aide financière à certaines associations par exemple.
Voilà, par exemple une association un projet de festival ou une compagnie de spectacle vivant qui est domiciliée à Verfeil risque d'être un petit peu mal vu. C'est de l'ordre de la discrimination à l'adresse, comme on en connaît des gens qui viennent des quartiers, des cités, qui se voient un peu blacklistés dans leur démarche de recherche d'emploi parce que ils ont une adresse postale qui est, je sais pas, dans le quartier du Mirail à Toulouse par exemple.
Ouais,
et du coup, ça fait mauvais genre a priori. Ben là, un peu dans le même genre, un projet culturel dont les porteurs sont domiciliés, dont l'association est domiciliée à Verfeil, se voit pas trop en odeur de sainteté auprès des collectivités. Donc il y a cette espèce de alors c'est le terme d'ostracisme qui est souvent employé, c'est-à-dire une forme de bannissement en fait, hein, une forme de mise à l'écart. En gros, on leur savonne la planche sur quelque chose qui auquel ils pourraient prétendre, c'est-à-dire un soutien institutionnel et notamment sous forme de subventions de la part des collectivités dont on pourrait penser qu'elles se réjouissent au contraire d'une dynamique villageoise, et cette dynamique villageoise elle est plutôt mal vue. Donc ça c'est le premier élément. Et plus récemment, ce qui a en plus précipité notre intérêt pour Verfeil, c'est quelque chose de plus, on va dire, spectaculaire, hein, moins feutré, moins sourd en fait. C'est la descente de la BRI et de la SDAT, donc la sous-direction de l'antiterrorisme et les forces de police, dans un contexte qui est national, qui a connu une couverture médiatique importante, c'est toutes les opérations que le ministère de l'Intérieur, le gouvernement, et particulièrement Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, conduisent depuis des mois contre les soulèvements de la terre et tout ce qui est de près ou de loin apparenté à la contestation écologique, on va dire radicale, qui s'exprime contre le cimentier Lafarge, qui s'exprime contre le projet d'A69, l'autoroute Castres-Toulouse, etc.
Contre les grandes bassines aussi.
Les méga bassines.
Et qu'est-ce qui s'est passé à Verfeil-sur-Seille dans ce cadre-là? Et
donc, début juin, il y a eu une descente de 70 policiers en armes, cagoulés, gilets pare-balles, cagoules et armes de guerre qui ont perquisitionné notamment deux domiciles et qui ont embarqué deux personnes pour les mettre en garde à vue pour à peu près 80 heures de garde à vue, puisque en matière de lutte contre le terrorisme, c'est des
gardes à vue qui
peuvent durer très longtemps, et les procédures sont encore en cours, hein, y a encore une instruction. Alors, dans les médias, on avait entendu parler de descentes, alors je sais plus, dans des grandes villes, et puis Caylus et Verfeil, qui étaient les deux petits villages qui, aux côtés de grandes métropoles, je sais plus si c'était Toulouse ou Nantes, étaient un peu dans le viseur. Donc voilà, pour résumer, il y a cette dynamique villageoise qui est très 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 riche sur, je sais pas, l'expression artistique, la solidarité, les projets collectifs, le logement social. Voilà, ça se décline sur plein d'axes qui sont plutôt très chouettes, en fait, et ça depuis pas mal d'années. C'est une dynamique à Verfeil qui date pas d'hier. Et donc, à la fois cette espèce de punition sourde et hypocrite de la part des collectivités, et des collectivités locales, à commencer par la municipalité qui est pas en très bon terme avec la municipalité de Verfeil, qui est pas en très bon terme avec le vivier associatif, et puis plus haut au niveau du gouvernement et du ministère de l'Intérieur, cette suspicion autour de ce que Darmanin appelle l'écoterrorisme.
Alors Merveille sur Seille, c'est l'un des titres, hein, d'un article que tu consacres à ce village dans ce numéro 28 du Saxifrage. Sous quel angle tu l'as traité, et qui est-ce que tu as rencontré dans ce village?
Alors, donc, le dossier s'appelle Verfeil à village découvert, parce que on voulait mettre à plat, objectiver en fait la réalité de ce qui fait l'objet de rumeurs, de suspicions, etc. Donc, à village découvert, c'était une manière de d'écouter ce que disent les gens et de montrer objectivement ce qui se passe, en faisant parler des acteurs, tout comme en allant voir du côté de l'INSEE, par exemple, hein, les statistiques, qu'est-ce qu'il en est de la population de Verfeil, son évolution démographique, son profil sociologique. Donc voilà, des données aussi très très objectives. L'article Merveille sur Seille, c'est le premier de ce dossier, et c'est celui qui retrace justement cette histoire récente de Verfeil sur les 20 dernières années. Donc on va dire que on peut en faire commencer la préhistoire avec la figure de Colette Magny qui s'est établie pour ces dernières années, donc une grande figure de la chanson contestataire qui s'est établie à Verfeil, qui est enterrée désormais, et l'apparition du festival Décrocher la Lune qui est un peu lié à cette renaissance de Verfeil. C'est à partir de cette époque que, au même moment, la démographie redémarre à Verfeil, c'est-à-dire que c'est un village qui s'était dépeuplé depuis le 19e siècle, comme tous les villages, et là, sur les 10 ou 20 dernières années, on a un regain de démographie avec des gens qui viennent s'établir, des jeunes familles, des enfants, etc. Et donc, il s'agissait de retracer toute cette histoire récente avec toutes les initiatives qui ont fleuri, et faire parler plusieurs personnes qui en sont soit des témoins, soit des initiateurs, en fait. Faut préciser qu'on a demandé aussi le son de cloche de la mairie, parce que on voulait, dans une démarche d'objectivité journalistique, appelons ça comme ça, avoir le son de cloche de la municipalité. Et l'adjoint qui a répondu au téléphone à un collègue du comité de rédaction lui a quasiment raccroché au nez en disant qu'il y avait absolument rien à dire sur le sujet. Donc on n'aura pas le son de cloche de la municipalité. Et donc si le point de vue du dossier est partial, c'est vraiment pas de notre fait, en fait. C'est qu'on a juste la parole des gens qui ont bien voulu nous répondre, c'est-à-dire des gens qui sont impliqués dans toutes ces dynamiques collectives, une fois de plus, qui sont de l'ordre du social, du culturel, de l'artistique et de la convivialité villageoise, pour le dire rapidement, quoi.
Donc pour en revenir sur la démographie et préciser, hein, ces 10 dernières années, c'est un village qui a connu plus une hausse de 33% de son nombre d'habitants. Et dans ce dossier que vous consacrez donc à Verfeil-sur-Seille, il y a aussi des habitants du village qui s'expriment, qui racontent leur vécu, que ce soit récent ou plus ancien, sur, on va dire, la dynamique aussi qu'ils vivent dans ce village-là. On a beaucoup parlé de cette dynamique que tu as qualifiée d'ailleurs de très positive d'entrée de jeu de notre entretien. S'il faut la résumer, ça passe par quoi, cette dynamique verfeillaise? Qu'est-ce qu'on retrouve à Verfeil qui est à souligner, à mettre en valeur?
Eh ben moi j'ai pris comme emblème la rue Alphonse de Poitiers, qui est la rue principale du village, du village, voilà, du centre-bourg. Et donc sur 300 mètres de rue, on a une école de philosophie, on a un point de vente des producteurs locaux, on a une friperie, on a le bar-restaurant des Tontons Zingueurs, on a la Maison de la Halle, qui est un café associatif, on a la quincaillerie, qui est un espace d'expression et de diffusion artistique, une salle de travail pour faire, je sais pas, du yoga ou des représentations théâtrale. Il y a beaucoup de choses, en fait, sur cette rue qui est, pour moi, emblématique. Le paradoxe, en fait, c'est que pour beaucoup d'élus qui parlent d'attractivité, qui parlent de développement local, qui parlent de vivre ensemble, c'est exactement ce qu'on peut observer à Verfeil, en fait. C'est-à-dire une population qui se saisit de l'outil associatif ou de d'autres formes juridiques qui permettent de développer des projets qui vont du foncier avec de l'habitat collectif ou du logement social jusqu'à de l'expression artistique, de la diffusion culturelle. Il y a une ludothèque aussi dans cette rue Alphonse de Poitiers. Donc voilà, c'est toutes les facettes qui font la qualité de vie d'un village et qui expliquent qu'il se repeuple, en fait, et qu'il soit attractif pour des personnes qui ne sont pas natives, mais qui, par du réseau, du bouche à oreille, se disent qu'il fait bon vivre à Verfeil. Que peut demander une municipalité, là où on connaît des villages qui se dépeuplent, ou des projets à grand renfort de communication, de milliers d'euros d'argent public pour revitaliser des centres-bourgs? Ben là, ça se passe, je dirais, d'une manière relativement autogérée, en fait, presque spontané. Il y a une dynamique qui fait un effet de cercle vertueux, en fait. Et donc, il y a ce paradoxe, mais ça se fait, j'ai envie de dire, peut-être sans les collectivités. C'est-à-dire que c'est une dynamique qui échappe. Je peux parler d'un côté un peu autogéré. Donc, la mairie n'est pas chef d'orchestre de cette initiative. Et je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la dépossession, c'est-à-dire le premier niveau des pouvoirs publics qu'est une municipalité se sentent dépossédés de quelque chose sur lequel ils voudraient avoir la main, mais qu'ils sont incapables de faire aussi bien eux-mêmes. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui vient de la base, qui vient d'une dynamique de la population, et qu'une municipalité ne peut pas faire aussi bien, quelles que soient ses intentions.
Verfeil-sur-Seille, c'est actuellement un peu moins de 450 habitants, hein, donc je le rappelle, en hausse de 33% ces 10 dernières années. Vous avez pris la parole, hein, de différents habitants de Verfeil, soit sous forme de tribune libre, où ils s'expriment librement sur leur vécu à Verfeil-sur-Seille, ou alors sous forme d'interview où ils vous racontent vraiment les différentes aventures qu'ils ont vécues actuellement là dans le village de Verfeil. Donc il y a 5-6 pages, hein, qui sont consacrées vraiment à la situation de ce village de Verfeil-sur-Seille dans le Tarn-et-Garonne. C'est dans le numéro 28 du Saxifrage que l'on feuillette aujourd'hui avec Jicabo sur CFM Radio. On écoute un titre de musique, un rock un peu particulier qui vient tout juste de sortir, il sort du four, hein. C'est le duo Locke and Zarn, le titre c'est « Je brûle ».
Je brûle de sentir la chaleur de ta main dans la nuit. Devinez tes pas, la hâte, la hâte. d'un jour qui se lève, d'un soleil nouveau dans mes yeux, dans mes yeux. D'un soleil nouveau dans mes yeux, dans mes yeux. D'un soleil nouveau dans mes yeux, dans mes yeux. Je brûle de sentir la flamme qui en bas dans tes mots. Une cheminée en fleur t'échappe, s'échappe à toute logique. Les lettres d'amour à venir, à venir. Les lettres d'amour à venir, à venir. Les lettres d'amour à venir, à venir.
Je brûle. Oh, je brûle. Oh oui, je brûle. Je brûle, je brûle, je brûle. Ah oui, je brûle. Oh, je brûle.
Je brûle que tu me dises la fin de l'histoire en dépit. Ne me dis rien du tout, du tout, du tout. La trace, la trace de sommeil adoucit la douleur de la joie, de la joie. Adoucit la douleur de la joie, de la joie. Adoucit la douleur de la joie, de la joie.
Je brûle. Oh, je brûle. Oh oui, je brûle. Je brûle, oh, je brûle.
Je brûle de sentir la chaleur de ta main dans la nuit. Devinez tes pas, ou la hâte. La hâte d'un jour qui se lève, d'un soleil nouveau dans mes yeux, dans mes yeux. D'un soleil nouveau dans mes yeux, dans mes yeux. D'un soleil nouveau dans mes yeux, dans mes yeux. Je veux de sentir la flamme qui
pour le chant et les percussions dans ce titre, je brûle. Bruno Izarn à la guitare et au chant, un titre d'ailleurs qui a été enregistré pas très loin de Verfeil-sur-Seille, dont on parle aujourd'hui sur CFM Radio avec J. Cabot, à la faveur de la sortie du numéro 28 hein, du journal Casse-Pierre du Coin. C'est le saxifrage que l'on feuillette aujourd'hui sur CFM Radio. Et après avoir consacré la première partie J. Cabot au village de Verfeil-sur-Seille, on va aborder et évoquer aussi les autres sujets hein, que vous traitez dans ce numéro 28 du saxifrage. Il y a notamment une chronique qui est désormais récurrente un peu, ce sont les, on va dire, des anecdotes carmosines que vous mettez à l'ordre du jour suite à des entretiens avec des anciens du pays, c'est ça?
Tout à fait, ouais, c'est on a depuis plusieurs numéros une rubrique qui s'appelle les dessous du bassin. Alors le bassin, c'est le bassin minier, et effectivement c'est traité sous la forme d'une écriture quasiment théâtrale en fait. Le fond est complètement authentique, c'est-à-dire qu'il y a que des éléments historiques que l'auteur de cette chronique a documenté en faisant parler des anciens, des connaisseurs de l'histoire minière notamment de Carmaux, et en allant voir dans les archives et en faisant, j'ai envie de dire presque de l'urbex dans les espaces industriels en friche de la région des environs de Carmaux. Et donc c'est, pour moi c'est quelque chose qui ça consiste à presque à écrire la légende carmosine C'est-à-dire que il y a un traitement littéraire, j'ai envie de dire, et humoristique, qui en fait une espèce d'épopée avec une sorte de un personnage fil rouge qui est une sorte d'Alice au pays des merveilles, deux chauves-souris qui sont ses interlocutrices et ses guides dans les bas-fonds carmosains, et donc ça raconte la légende de l'histoire ouvrière et minière de Carmo. Mais tout est factuellement exact, même des choses qui peuvent nous sembler complètement fantaisistes. Ouais. Donc c'est très documenté et il s'agit d'exhumer en fait, de sortir du sous-sol une histoire méconnue qui est l'histoire du territoire en fait. On est dans un territoire rural, mais qui a aussi un passé ouvrier très important autour du bassin minier. Et donc cette rubrique elle s'attache à rappeler ça. Donc c'est savoureux, ça se lit comme une sorte d'Alice au pays des merveilles. Au fond des couloirs de la mine et en même temps c'est historiquement très documenté.
Les dessous du bassin de journal d'Alice, c'est le chapitre 3 hein, dans ce numéro 28 du saxifrage. Il est question aussi d'une rupture peu conventionnelle, un article de Jess hein, qui raconte ses mésaventures on va dire dans une structure qui est dédiée à la base à l'insertion, mais selon ce qu'elle nous raconte c'est que c'est pas forcément que l'insertion qui est la priorité de la structure dans laquelle elle est passée.
Alors tout à fait. Déjà, moi, c'est un peu comme les deux articles de qui émanaient de la population de Verfeil et qui sont venus étoffer le dossier dont j'ai rédigé une bonne partie. Bah, de la même manière, là, cet article qui est signé Jess, c'est un article qui ne vient pas du comité de rédaction et qui vient d'une lectrice en fait qui nous a adressé un texte qui a au départ son coup de gueule. Elle s'est fait son contrat n'a pas été renouvelé, elle était accompagnatrice, encadrante dans un chantier d'insertion. Et y avait une espèce de dérive où l'insertion devenait de moins en moins la priorité, il y avait des enjeux plutôt de rentabilité avec une marchandisation de la vocation première de ce chantier, c'est-à-dire de virer du côté de la prestation de service en fait. Mmh. Et elle avait l'impression que ça trahissait, comme des choses qu'on observe assez souvent dans le secteur associatif médico-social, hein, une espèce de dérive vers la rentabilité où la noble cause du début est de plus en plus négligée. Et donc, elle a écrit ce billet d'humeur, hein, ce coup de gueule qui fait en même temps une radiographie de ce que peut devenir des structures, une structure telle qu'un chantier d'insertion. Et le noyau dur, c'est le courrier qu'elle a lu le jour de la dernière réunion de travail d'équipe à l'issue de laquelle elle était plus membre de l'équipe parce que son contrat avait pris fin, et elle a contextualisé ça en faisant une espèce d'état des lieux de ce que peuvent devenir des associations, des structures à vocation sociale avec une espèce de dérive un peu commerciale où on renie les valeurs fondatrices.
Juan Farid Noriol, lui, signe un article intitulé « Laisse pas traîner ton fils » pour nous parler d'un personnage que l'on a tristement découvert dans le Tarn il y a quelques semaines, quelques mois déjà. C'est le fils Cabroulier hein, qui est en procès actuellement avec la justice, on va dire, tarnaise suite à des affichages pas très glorieux, si on peut dire ça comme ça, tellement moi, j'ai même pas trop envie de revenir là-dessus. Mais bon, il nous raconte un peu l'histoire de ce fils qui est le fils du député RN du Tarn, hein,
c'est ça. Clément Cabroulier, qui est le fils de Frédéric Cabroulier, député RN. Et alors c'est assez savoureux de citer NTM, laisse pas traîner ton fils, parce que en fait, bah, ce garçon a fait de l'activisme d'extrême droite en affichant à l'entrée d'un square à Albi, en imitant l'affichage officiel de la municipalité, square fermé pour raison de sécurité, risque d'attaque de vos enfants par des migrants, en gros. C'était après l'attaque au couteau qu'il y avait eu dans un jardin d'enfants à Annecy. Et donc, c'était une espèce d'opération de propagande pour cultiver la peur et la haine du migrant sur fond de xénophobie. Et juste le député RN, un peu embarrassé, il se fait déborder sur sa droite par son propre fils. Lui, il est député, il veut jouer une respectabilité dont le RN est très à laquelle le RN est très attaché évidemment ces dernières années, et son fils se fait prendre la main dans le sac avec des agissements instruments qui sont beaucoup moins lisses, on va dire. Mmh. Et donc, il est le père est tiraillé. Bah, c'est son fils. Il l'excuse en disant oh, il est un peu turbulent.
Erreur de jeunesse, grosso modo.
Je maîtrise pas mon fils. Ça fait longtemps qu'il écoute plus son père. Donc c'est assez drôle pour un parti qui défend l'autorité parentale, bah, de voir que il n'arrive pas à tenir son fils et que son fils a des agissements de skinhead qui du coup mettent le père député en porte-à-faux. Donc voilà, c'est une petite chronique un peu ironique sur l'actualité locale de notre extrême droite tarnaise, quoi.
Et puis toi, Jicabo, tu te mets à nu dans Liberté, Égalité, Stérilité pour nous raconter la vasectomie que toi, tu as pratiqué il n'y a pas longtemps. Et l'idée ici, c'est de raconter vraiment comment cela se passe de A à Z, pourquoi pas pour inspirer certains, pour ne serait-ce que témoigner de ce que toi, tu as vécu.
Tout à fait. Alors, la vasectomie, c'est une opération de stérilisation des hommes. C'est un moyen de contraception, du coup, irréversible, qui consiste à ligaturer les deux canaux déférents qui alimentent en spermatozoïdes les testicules et donc du moment que ces canaux sont coupés, on continue à avoir une activité sexuelle et donc notamment à générer, à fabriquer du sperme, mais il n'y a pas de spermatozoïdes dedans, donc ce sperme est stérile. Donc c'est un moyen de contraception masculine dont j'avais parlé il y a quelques années dans le numéro 5 de Saxifrage, à une époque où c'était un sujet intéressant pour moi qui méritait d'être traité. J'avais interrogé des hommes qui l'avaient fait. Et puis, plus tard dans ma vie, c'est devenu d'actualité pour moi également. Mmh. Alors, ça n'est valable que quand on a arrivé à un certain âge, quand on est sûr de plus vouloir avoir d'enfants, quand on en a déjà. C'est l'objet d'une discussion au sein du couple. Bref, je voulais restituer cette discussion, ce débat, ce cheminement, et puis après raconter vraiment de la manière la plus sincère et la plus transparente possible comment ça s'est passé entre le début de ma décision, de ma discussion aussi avec ma compagne, jusqu'à les différentes étapes médicales, les rendez-vous, les démarches, comment s'est passée l'opération, qui est une opération bénigne, qui se fait dans la journée.
En ambulatoire,
et puis, après, avec un spermogramme qui vient contrôler que la stérilité est effective. Donc c'est quelques mois de ma vie que je raconte de la manière, je dirais, la plus transparente, la plus sur un sujet qui, pour moi, n'est l'objet d'aucun tabou. Je pense que la popularité croissante de ce moyen de contraception tient au fait que les hommes qui l'ont pratiqué en sont les ambassadeurs, en fait, sur le côté sans incidence aucune sur la vie sexuelle. Déjà, c'est important d'insister dessus. Le côté vraiment commode et pratique qui, par exemple, dispense d'utiliser que ce soit la capote ou la pilule. Enfin, voilà, tous les moyens de contraceptifs ont leurs inconvénients. Je dirais que la vasectomie, à part d'être irréversible, donc c'est-à-dire qu'on le décide une fois qu'on est sûr de pas vouloir faire marche arrière, elle n'a que des avantages. Donc j'avais envie de raconter ça, cette fois, non pas en tendant le micro comme je l'avais fait il y a quelques années, mais en racontant moi mon vécu de ces quelques derniers mois, pour que ça donne des idées aux hommes dont la vie familiale et affective pourrait faire que ça serait d'actualité pour eux.
Et ça permet aux hommes aussi d'être vraiment partie prenante dans les histoires de contraception qui sont souvent uniquement déléguées et reléguées.
Exactement.
Aux femmes, quoi.
Exactement.
En présentant d'ailleurs aussi des pourcentages de réussite ou en tout cas des taux très très élevés dans les histoires de contraception. Donc c'est Liberté, Égalité, Stérilité à retrouver donc dans ce numéro 28 du Saxifrage qui coûte 3€. On peut s'abonner aussi au Saxifrage. On peut aussi participer en vous soumettant des articles comme tu nous l'as souligné et comme l'a fait par exemple Jess à votre endroit pour un sujet qui lui tenait à cœur. On peut vous soumettre comme
tout
ça au comité de rédaction des articles.
C'est comme ça qu'on entend c'est un média associatif, de proximité, contributif, fait par des non-professionnels, et donc on accueille aussi toutes les propositions, on les sélectionne, on publie pas tout ce qu'on reçoit, on fait un tri, un choix éditorial, mais c'est clair que c'est aussi la parole des gens du territoire qui nourrit ce qu'on a à raconter. On n'arriverait pas à faire un journal à nous tout seuls, enfin, où il serait sans doute incomplet, il serait pauvre. Donc effectivement, là, il y a, je sais pas, un tiers peut-être du numéro qui est constitué de la parole d'autrui. Et c'est important.
Un journal qui est imprimé dans le coin, même si vous aviez changé d'imprimerie récemment, ce qui a d'ailleurs failli vous mettre un peu en porte-à-faux désormais, c'est imprimé à Grouillet. Hein,
exactement, c'est ça, chez Escourbiac, hein, ouais, et on a légèrement rétréci le format. Il est un peu moins XXL que le saxifrage historique. On perd quelques centimètres, ça reste un grand journal, parce qu'il y a le côté graphique auquel on est attaché, ça demande des grandes pages pour faire un vrai travail graphique qui nous semble important. Et donc, on peut le trouver sur corde au Tabac Presse. On peut le trouver à l'épicerie bio. On peut le trouver au Stockage. On peut le trouver à Verfeil, à la Maison de la Halle, à Saint-Antonin, au Tracteur Savant. On sera au marché de Saint-Antonin le dimanche matin, à la fête des morts le dimanche après-midi, 29 octobre. Et après, sur le marché, il y a des stands sur le marché de Cordes, par exemple, qui nous diffusent également aux côtés de leurs produits locaux. Voilà, c'est tout un ensemble de colporteurs, en fait, qui par solidarité, par sympathie, répandent le journal, chacun à son échelle, dans son réseau propre.
Saxifrage.fr pour en saisir quelques-uns des articles, hein, mais pour l'avoir en papier, tu nous as rappelé déjà quelques points de distribution par ici. On peut aussi s'abonner, hein, si un numéro coûte 3 euros, il y a différents tarifs pour les abonnements, ça démarre à 15 euros pour 5 numéros, voire plus, ce qui permet aussi de soutenir ce journal Casse-Pierre du coin, entièrement associatif et bénévole. Merci beaucoup, J.K.B.O.
Ouais, merci. Merci, CFM.